Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club des idées du grain. C'est vendredi, ce soir, Européenne 2019, une symphonie désaccordée. Concession, n'en faire jamais, elles ont perdu Louis XVI, écrivait Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. Exception, dites qu'elle confirme la règle, ne vous risquez pas à expliquer comment. Concession et exception, voilà deux mots qui paraissent résumer cette fin d'année 2018 pour Emmanuel Macron. Concession parce que les mesures annoncées en réponse au mouvement des Gilets jaunes coûteront plus de 10 milliards d'euros. Exception parce que ce geste en faveur du pouvoir d'achat des Français fait déborder les prévisions de déficit public que le chef de l'État se faisait fort de contenir en dessous des 3% pour répondre aux injonctions de Bruxelles. Celui qui voulait incarner la figure du grand réformateur en Europe est-il encore crédible? Alors que se profile le premier rendez-vous électoral de son mandat, les européennes, en mai prochain, pouvait-il imaginer, lors de ses grands discours sur l'Europe l'année dernière, que la parole du peuple le mettrait en défaut auprès de ses voisins de l'Union?
Aucun pays n'avance s'il n'entend pas aussi cette part de colère légitime de nos peuples. Elle s'exprime partout en Europe, avec des votes extrêmes qui montent dans certains pays, avec le Brexit qu'on a vécu il y a quelques années en Grande-Bretagne. Et moi, je ne ferai jamais la politique de mon pays et je ne mènerai jamais le projet européen auquel je crois contre des aspirations que j'estime légitimes. Je pense qu'elles sont réconciliables et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Européenne 2019, une symphonie désaccordée et un chef d'orchestre qui semble avoir perdu le tempo. Nous en parlons jusqu'à 19h avec vous, Anastasia Colosimo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po et membre du club. Bonsoir à vous, Stéphane Robert.
Bonsoir.
Chef du service politique de France Culture et comme chaque semaine, l'invité du club. Bonsoir, Gérard Courtois.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et directeur éditorial au Monde. On vous retrouve également le dimanche matin, régulièrement dans l'esprit public d'Émilie Aubry. Alors, je voudrais vous entendre d'abord sur ce discours d'Emmanuel Macron prononcé avant le Conseil européen du 13 décembre dernier. Je ne mènerai jamais le projet européen auquel je crois contre des aspirations que j'estime légitimes, disait-il. Il lui a fallu défendre notamment les modifications de dernière minute apportées au budget 2019 en guise de réponse au mouvement des Gilets jaunes. Comment le chef de l'État peut-il aujourd'hui, devant ses pairs européens en tout cas, sortir de cet épisode et commencer la nouvelle année sans donner l'impression qu'il a reculé sur ses grands engagements de départ, Gérard Courtois?
Il fait ce qu'il peut dans une situation qui est particulièrement compliquée pour lui en ce moment. Moi, ce que, en deux mots, d'un côté, je pense que Emmanuel Macron est à peu près assuré de l'indulgence de la Commission pour le dépassement de la règle des 3% en 2019, nécessité fait loi, si on résume. Et il a par ailleurs engagé un certain nombre de réformes structurelles qui étaient aux yeux de Bruxelles une des conditions requises, en quelque sorte, par Bruxelles. En revanche, ce qu'il a perdu dans cet épisode des Gilets jaunes, dans cette secousse profonde et les réponses qu'il a été obligé d'y apporter et l'autorité qu'il y a perdu sur le plan politique intérieur, ce qu'il a perdu aux yeux, à mon sens, aux yeux de ses partenaires européens, c'est à la fois une forme de prestige qu'il avait acquis par son élection, une forme une capacité d'entraînement aux yeux d'un certain nombre d'Européens liés à la vigueur et au volontarisme de son projet européen. Il est évidemment assez difficile d'être en position de, non pas de donneur de leçons, mais d'entraîneur de la collectivité européenne quand on redevient, aux yeux des Allemands navrés ou aux yeux des Italiens narquois, le mauvais élève budgétaire de l'Europe qu'on a toujours été depuis fort longtemps.
Emmanuel Macron qui voulait incarner la figure du grand réformateur, le temps où la France propose est revenu, avait-il dit dans son discours de la Sorbonne en septembre 2017, Stéphane Robert, est-il encore crédible dans ce rôle-là?
Ben oui, c'est un petit peu ce qui va être compliqué pour lui. Il était à la fois, il faut rappeler qu'au moment du discours de la Sorbonne et au discours d'Athènes, il avait à la fois fasciné une partie de l'Europe et à la fois fait peur à une partie de l'Europe. Il y avait certains chefs d'État qui s'inquiétaient un petit peu du projet de Macron, qui était très ambitieux. Ça avait été noté, ça, par tout le monde. Et il a pas
trop assez ambitieux, trop européen.
Alors, oui, parce qu'il voulait aller très très loin. Il voulait mettre en place un budget de la zone euro, mais conséquent, vraiment conséquent. Il voulait un ministre des Finances de la zone euro. Il voulait mettre en place des choses que les pays du nord de l'Europe ont d'emblée refusé. Ils avaient un petit peu peur du projet de Macron, et il y avait une autre partie de l'Europe qui était assez fascinée par ce type qui promettait de faire avancer à nouveau l'Europe qui paraissait bloquée à ce moment-là. Et ce qu'il disait, son projet français, il est très simple, son projet français, c'est: je vais réformer la France, ce que mes prédécesseurs n'ont jamais fait, je vais adapter la France à un modèle européen, à un modèle allemand en quelque sorte, je vais faire les réformes qui sont nécessaires, je vais contenir le déficit budgétaire, parce que ce qui est reproché aux Français, c'est ça, c'est des dépenses publiques pléthoriques, c'est une administration pléthorique. Lui, donc, sa promesse était de faire les réformes qui permettraient de contenir ça et de mettre en place des politiques communes avec l'Europe, avec les autres partenaires européens, pour construire une Europe un peu plus forte que ça. Là, avec ce nouveau dépassement du budget européen, c'est cette promesse-là qui n'est pas tenue, qui apparaît ne pas pouvoir être tenue pour les années qui viennent. C'est ça qui va être un petit peu compliqué pour Emmanuel Macron. Et on voit là, aujourd'hui, alors je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, mais le commissaire allemand au budget, Oettinger, qui dit qu'il va falloir prendre des sanctions. Ça fait 11 ans maintenant, à part 2017, que la France dépasse les budgets et qu'on ne fait rien.
Et vous disiez, Gérard Courtois, tout à l'heure que l'Allemagne était outrée, mais Angela Merkel, outrée, au tout départ,
navrée, en
comment
tout cas,
vous avez dit navrée. Et les Italiens narquois. Enfin, les Italiens, ils peuvent déjà dire, attendez, nous, on nous a demandé de raboter de 10 milliards d'euros notre budget, et Emmanuel Macron, on le laisse annoncer.
Bénéficie d'une indulgence extraordinaire.
Alors, qu'est-ce que ça peut créer comme, peut-être comme frustration, Anastasia Colosimo? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a perdu de crédibilité auprès de ses collègues?
Bon, déjà, de toute façon, je pense que la seule crédibilité qu'il cherchait à avoir, c'était une crédibilité auprès d'Angela Merkel. C'était la seule personne devant laquelle il y avait une question de savoir comment il devait se présenter et le projet qu'il voulait avoir pour la France dans le cadre de l'Europe, etc. C'est quand même la grande figure de l'Europe, c'est Angela Merkel. Et effectivement, c'est assez terrible l'image que ça renvoie par ailleurs, parce qu'on est effectivement... Moi, je déteste cette expression, mais c'est le cas, un très mauvais élève de l'Europe, et on bénéficie de manière assez permanente quand même d'un régime de faveur, au nom de quoi on ne sait pas trop, alors que d'autres pays font quand même des sacrifices inimaginables. Ensuite, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y avait, moi en tout cas, j'étais assez étonnée au moment de la victoire d'Emmanuel Macron, parce que tout d'un coup, on a essayé de nous faire croire que les européistes l'avaient emporté dans ce pays. Et qu'il y avait un peu une majorité d'europhiles dans ce pays, alors que si on regarde le premier tour, bon, évidemment, tout ça sont des calculs à la louche et ça ne veut pas non plus tout dire, mais néanmoins, si on regarde le premier tour, on a deux candidats qui se portent quasiment à 20% qui sont explicitement europhobes, ou en tout cas qui sont vraiment contre l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et l'électorat de Fillon, en fait, est assez divisé. C'est-à-dire, on ne peut pas non plus dire que l'électorat de Fillon est parfaitement europhile. Donc, l'impression qu'il y a eu au moment où Emmanuel Macron a gagné, qui était de dire les europhiles ont gagné, l'Europe a gagné, l'Europe c'est formidable, était assez faussé dès le départ. Et d'ailleurs, le fait qu'il soit allé le lendemain de son élection voir Merkel comme s'il y avait une victoire tout d'un coup en France de l'idée européenne m'avait déjà paru à ce moment-là un peu sauvage et assez peu représentative en fait de l'opinion générale. Ensuite, il est évident que il y a eu néanmoins à ce moment-là, même je pense parmi les europhobes, un espoir. Il y a eu l'espoir de se dire que peut-être que finalement on va réussir à faire quelque chose de tout ça. Et d'ailleurs, sans doute, c'était une bonne stratégie d'être très ambitieux sur l'Europe. Justement, de dire que l'Europe telle qu'elle va maintenant, ça n'est plus possible et que du coup, il faut redoubler d'ambition. Enfin, il ne faut pas tout abandonner, mais plutôt redoubler d'ambition. Il est absolument évident qu'aujourd'hui, la donne a changé. La donne a changé parce que, bon, voilà, on l'a évoqué, mais aussi parce que Merkel est sur le départ, parce qu'avec qui on va construire cette Europe que tout le monde veut, et aussi parce que l'Europe elle-même est très instable. C'est-à-dire que Emmanuel Macron n'est pas du tout le seul à avoir des problèmes aujourd'hui en Europe avec l'opinion et surtout avec un euroscepticisme qui est quand même grandissant.
Et il semblait en être conscient, en tout cas au début de son mandat, Emmanuel Macron, quand il se prononce son discours sur l'Europe à Athènes notamment, en disant il faut faire attention à préserver nos peuples, ne pas faire campagne contre les peuples où s'en sera fini de l'Europe. Alors c'était pas dans ce discours-là, mais aujourd'hui les cadres de La République En Marche le disent, et il le disait à l'époque, l'Europe ne doit pas écraser les nations, ne
doit pas écraser les peuples. Et Gérard Courtois, est-ce que au fur et à mesure de cette année, vous avez l'impression que cette idée-là est devenue une conviction aussi à l'épreuve des faits et des changements dans l'opinion publique du mouvement des Gilets jaunes?
Oui, je reviens d'un mot sur ce que disait Anastasia. C'est vrai que à la présidentielle, grosso modo, et on pourrait rajouter à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Dupont-Aignan et plusieurs petits candidats, etc., etc. On est grosso modo à 50% de vote en faveur de candidats qui sont résolument, d'une manière ou d'une autre, opposés à l'Europe, à la communauté ou à l'Union européenne telle qu'elle fonctionne et telle qu'elle ne fonctionne pas. En revanche, au crédit de Macron à ce moment-là, je pense que il y a quand même quelque chose, enfin à mes yeux en tout cas, d'assez courageux de sa part à avoir. Et c'est assez rare pour être signalé dans l'histoire politique récente, que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, ou même que ce soit Hollande, qui était un Européen convaincu, de faire campagne et de l'emporter sur un projet résolument européen, au sens, voilà, de dire, c'est notre espace d'action naturelle par rapport aux défis auxquels on est confronté, qui sont des défis planétaires, que ce soit le climat, que ce soit l'immigration, que ce soit le terrorisme, etc. Si on pense à l'échelle française, on est à côté de la plaque. Donc la seule échelle raisonnable qui soit à notre portée pour avoir une politique effective dans ces domaines, c'est l'Europe. Par contraste ou par opposition, quand même énormément de responsables politiques français qui ont fait de l'Europe le bouc émissaire de tous leurs propres échecs ou toutes leurs impuissances. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que il n'était probablement pas majoritaire sur le dossier ou sur l'ambition européenne. En revanche, il a eu, je dirais, l'audace d'en faire un argument de campagne gagnant.
Et cette fois, Anastasia Colosimo, il n'a même pas essayé de convaincre les Français que les sujets abordés, notamment par les Gilets jaunes, peuvent se régler au niveau européen. Il n'a même pas essayé de le faire.
Non, mais moi je suis tout à fait d'accord pour dire que c'était très audacieux. Et d'ailleurs, au moment de la campagne, tout le monde disait « mais il est complètement fou de parler autant d'Europe, c'est complètement suicidaire, etc. » Et effectivement, il y a un courage et une audace, et je pense que sur ces sujets-là, ça participe d'une véritable conviction pour lui. Même si sur d'autres sujets, il y a moins de convictions vraiment chevillées au corps, là, ça participe d'une véritable conviction pour lui. Néanmoins, il y a un problème, on le disait, mais ça ne va pas dans le sens de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'il a réussi un miracle, mais ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Et ça ne va pas dans le sens de l'histoire, en tout cas, de ce qui se passe en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'est pas vraiment ce qui fait recette. Alors, on a été l'exception, et en même temps, on voit que c'est-à-dire que le miracle ne dure pas éternellement, ou en tout cas, qu'il y a un moment où il se fracasse contre quelque chose, et où c'est un peu compliqué de le ressusciter, de le raviver.
Je crois qu'il faut se rappeler du contexte. Quand même, on avait les Britanniques qui venaient de sortir, qui venaient de voter le Brexit. On avait la Catalogne qui voulait partir. On avait Orban qui prenait du poids au niveau européen. On avait le PiS en Pologne qui avait pris le pouvoir. Et donc on était dans un détricotage potentiel de l'Europe. Il y avait beaucoup de craintes vis-à-vis de ça. Emmanuel Macron effectivement était très européen dans son discours, dans ses revendications et dans son projet qui allait très loin. Et il a gagné. Et du coup ça a masqué finalement ce qu'on connaît dans toutes nos sociétés occidentales, parce que nos gilets jaunes à nous là, ça n'existe pas que chez nous. Il faut bien voir que cette fracture qu'on peut voir entre les villes, les métropoles et les campagnes, vous la retrouvez.
C'est une des grilles de lecture.
Vous retrouvez la même chose en Pologne. Vous avez eu des élections municipales il n'y a pas longtemps en Pologne, et vous voyez que le PiS, le parti conservateur très à droite, qui n'est pas l'extrême droite, mais qui n'est pas très 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 loin, a fait de gros scores dans les campagnes, alors que dans les villes, ils existent très très peu, ou ils ont beaucoup de mal à exister. Donc, et ça, c'est vrai pour toutes nos démocraties occidentales. Nous, on a connu avec nos gilets jaunes ce que les Anglais ont connu avec le Brexit et ce que finalement les États-Unis ont connu avec Trump, avec l'élection de Trump. Ceux qui ont voté pour Trump, ce sont les gens qui vivent en périphérie des villes. Il faut bien voir ça aussi. Donc le Macron, effectivement, il est apparu comme finalement le projet européen et la construction européenne n'est pas morte, mais ça a masqué le fait qu'il y a de vraies fractures qui divisent nos sociétés occidentales.
C'est un même mouvement, Gérard Courtois.
On pourrait rajouter le cas italien dans le paysage qui lui a basculé sur une coalition à la fois extrême droite et je sais pas comment la qualifier, atypique, populiste, les 5 étoiles. Mais on a effectivement, je suis tout à fait d'accord, on a un paysage européen globalement qui est extrêmement fragmenté, contradictoire, à la fois socialement, politiquement. En même temps, il y a cette espèce de hantise ou de crainte que ces mouvements populistes, d'extrême droite ou illibéraux, soient une sorte de vague irrésistible qui déferle sur toute l'Europe. Ils progressent partout, ou presque partout, y compris dans des pays où ils étaient quasiment absents jusqu'à présent, comme l'Espagne. On a vu les élections en Andalousie récemment. Ils arrivent au pouvoir, soit dans des systèmes de démocratie illibérale comme en Hongrie, ou voire en Pologne, ou dans des alliances avec la droite comme au Danemark, en Autriche, ou en Italie. Donc ils progressent. Sont-ils en capacité, mais ils ne sont pas pour l'instant en capacité d'être seuls au pouvoir, ni dans leur pays, ni à l'échelle européenne. Pour l'instant, on en est là. Donc il y a une sorte de diable aux yeux de beaucoup qui est en train d'avancer. Il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité de réaction et de résistance à la fois des peuples, on le voit en Pologne, on le voit en Hongrie, et de l'Union européenne elle-même. C'est quand même, je veux dire, les Italiens ont été obligés de mettre de l'eau dans leur vin sur leurs ambitions budgétaires iconoclastes aux yeux de Bruxelles. Les Polonais ont été obligés de mettre de l'eau dans leur vin sur leur projet de loi visant à mettre sous tutelle la justice. Donc il y a même si l'Europe est pas brillante, c'est pas flambarde, elle a quand même encore une capacité à faire respecter des règles minimales de vie en commun.
Ce mantra qu'Emmanuel Macron répétait plutôt incessamment, inlassablement, le clivage entre progressiste et nationaliste, justement, est-il, lui aussi, j'utilise beaucoup cet adjectif ce soir, mais encore crédible, c'est le sujet de notre, c'est la question qu'on pose ce soir dans le grain à moudre. Est-ce que ça fait toujours un programme de campagne? Emmanuel Macron qui se présentait comme le dernier rempart face aux populistes. Alors on peut débattre très longtemps de la définition du populisme. Elle peut être, la définition peut être aussi une définition très positive. Obama en donnait une définition positive. C'est tout ce qui se réfère au peuple. Mais en tout cas là, le peuple s'est rappelé à son bon souvenir à Emmanuel Macron pour lui demander des comptes sans repasser par les urnes. Donc est-ce que cette distinction qu'il a toujours faite, le chef de l'État, entre progressiste et nationaliste, est-ce qu'elle tient encore, Anastasia Colosimo?
Non, je pense qu'elle n'a jamais été crédible. Je pense qu'elle est fondamentalement et structurellement viciée, et je pense que c'est exactement ce genre. je vais avoir des propos extrêmement populistes, mais je les assume.
Mais déjà, quelle est la définition que vous... Parce que j'ai remarqué que sur le populisme, tout le monde a sa propre définition, donc personne ne parle de la même chose. Mais non, donc vous en donnez quelle définition avant de...
Moi, je pense considérer que c'est formidable le populisme, mais là, on va l'utiliser dans la version la plus péjorative. Donc je vais parler en termes populistes. Je pense que cette fracture qui a été inventée entre eux, vous savez, parce qu'on parle des progressistes, et c'est quoi de l'autre côté?
Les nationalistes.
Les nationalistes, mais on parle aussi de l'ouverture et de la fermeture, tous ces mots, où en fait tout ce vocabulaire où il y a le camp du bien et le camp du mal. Je pense que le fait que il y a une telle vision manichéenne qui a été imposée au débat a eu des répercussions inimaginables sur la montée de la colère et sur une espèce d'internationalisation aussi de la colère. C'est-à-dire que quand des personnes disent on a des difficultés, on a des problèmes avec des sujets qui sont extrêmement sensibles et qui sont très compliqués et qui effectivement sont des sujets sur lesquels on sait que si on commence à trop en parler, on peut s'exposer à des dangers. Mais quand des personnes disent on a peur de l'immigration, quand des personnes disent on ne se sent plus du tout en sécurité économiquement, c'est terrible, on crève la faim, pour nous c'est insupportable ce qu'on voit à la télé, ce que font les politiques, etc. Si on leur dit non mais attendez, premièrement, vous n'avez rien compris. En fait, économiquement, ça va pas si mal. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et l'immigration, arrêtez de nous embêter avec
on
ça.
On a été trop intelligents.
C'est totalement faux. Voilà, c'est ça. C'est totalement faux. Vous avez l'impression que, mais en fait, pas du tout. Et puis, de toute façon, tout ça est un fantasme, etc. Bon, en fait, c'est-à-dire cette diabolisation, parce qu'à mon avis, il y a eu une diabolisation à un moment du peuple, qui par ailleurs, et ça j'en suis assez convaincue, était beaucoup moins excité au départ qu'il ne l'est aujourd'hui. L'excitation vient aussi du fait que justement, en fait, sa demande n'a pas vraiment été prise au sérieux. Qu'il n'y a pas vraiment eu le dialogue qui a été demandé à un moment, qu'il n'y a pas eu une prise en compte véritablement sérieuse des questions qu'il posait, et qui sont des questions extrêmement sérieuse qu'il faut poser à la mondialisation, à l'insécurité économique et sociale, à l'insécurité culturelle qui est aussi une vraie question et c'est, ça dépasse complètement aussi la question de l'immigration. Hein. Donc je pense que dès le départ cette dichotomie est viciée et que en fait elle ne fait qu'empirer la situation. Je trouve ça extrêmement étrange que le gouvernement continue à penser que ça fonctionne.
C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement inclassable et quiconque essaye de le définir forcément ne peut que se tromper, Stéphane Robert. Donc est-ce que ça va remettre sur le tapis une nouvelle définition de toutes ces... Justement, peut-être qu'on va abandonner cette distinction, cette dichotomie qu'on fait toujours entre progressistes et nationalistes.
Alors,
en Europe.
Ce que dit Anastasia, c'est vrai, c'est en partie inventé, mais en fait c'est inventé, oui et non, puisqu'il y a quand même... Il faut distinguer cette France qui se révolte là, ce sont des gens qui s'estiment, ce que vous disiez précisément, hein, des perdants de la mondialisation en quelque sorte, ceux qui se retrouvent en insécurité financière, qui ont un petit boulot mais ils savent pas s'ils vont le garder. Donc si vous voulez, il y a d'un côté, on voit bien quand même qu'il y a un clivage qui se crée entre les gens qui s'adaptent à la disparition des frontières en quelque sorte et donc à la mondialisation et qui arrivent à complètement s'insérer dans ce nouveau monde là et puis ceux qui se retrouvent complètement mis en difficulté et en insécurité. Ce qui a été inventé, en fait, c'est
amélioratif, c'est ça le problème.
C'est la traduction
c'est
politique
accuse.
De ce clivage-là, c'est que si vous n'êtes pas content, vous êtes dans le camp du mal. Et vous votez pour les populistes et les nationalistes. Et on renvoie en permanence à ce qu'a produit le nationalisme, finalement, en France, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est ça, le spectre qu'on agite en permanence. Et ce sur quoi est élu Emmanuel Macron, c'est ça, c'est la peur du retour d'un parti potentiellement politique qui peut prôner une idéologie fascisante.
Gérard Courtois.
Ce qui est évident, c'est que Emmanuel Macron, quand il arrive à l'Élysée, son ambition, elle est quasi explicite, et il fait en sorte que d'avancer dans cette voie-là, c'est de reproduire à l'échelle de l'Europe, et notamment à l'occasion des élections européennes de 2019, la martingale qui lui a permis de gagner le second tour de l'élection présidentielle, largement, contre une représentante attitrée, si je puis dire, des nationalistes, et qui se revendique comme telle, Marine Le Pen. Et puis, il s'est heurté, dans un premier temps, à la complexité du paysage politique européen. Il pensait pouvoir bousculer le paysage du Parlement européen, ou en tout cas, il avait ça en tête, comme il avait bousculé le paysage politique français. Et puis, un an plus tard, qu'est-ce qu'il fait ? Il se trouve obligé de faire en sorte que La République En Marche, son parti, s'affilie au groupe des libéraux européens. Parce qu'il faut bien trouver un ancrage et que le Big Bang qu'il espérait, il voit bien qu'il ne se produira pas. Et puis arrive là-dessus le mouvement des Gilets jaunes et là on voit bien que depuis deux mois, cet affrontement ou cette caricatural progressiste nationaliste, il l'a mis de côté. Et il est passé à un discours beaucoup plus sur l'Europe qui protège, la souveraineté européenne, et dans cette souveraineté européenne, la souveraineté des peuples qui composent l'Union. Donc la réalité l'a quand même fait beaucoup évoluer par rapport à cette espèce de, j'allais dire de fantasme, en tout cas de d'espoir initial qu'il pourrait faire en Europe ce qu'il avait fait en France.
Stéphane Robert.
Il y a un peu une tromperie dans la promesse macronienne au tout départ, puisqu'il promet, d'un côté, il promet de transformer la France pour l'adapter au modèle européen, et notamment au modèle au modèle allemand. Donc c'est affaiblir en quelque sorte les règles que avec lesquelles on fonctionne nous, c'est les amoindrir. Et puis d'un autre côté, son projet, sa promesse, c'est de restaurer la souveraineté française qui est mise à mal par l'Europe. Et en quelque sorte, ce qu'on comprend avec Macron, c'est qu'il va faire de l'Europe une grande France. Et c'est là où il y a tromperie, en quelque
vieux
sorte.
C'est le fantasme français.
Mais oui, c'est ça. Et c'est là où il y a tromperie. Et c'est là où il se heurte à la réalité. C'est-à-dire que, on peut pas transformer. Il y a un imaginaire. C'est Stéphane Rosès qui en parle très bien de ça. L'imaginaire français qui est pas du tout l'imaginaire allemand.
Faire de l'Europe une grande France, mais avec justement une Angela Merkel affaiblie, qui comptait pas quand même se laisser faire là-dessus, mais qui aujourd'hui est très affaiblie, qui va peut-être devoir faire des concessions sur les exigences ou les propositions plutôt de la France en matière de tout ce qui concerne la zone euro, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression que là aussi, entre une Angela Merkel affaiblie d'un côté, un Emmanuel Macron affaibli, sur quel pilier aujourd'hui peut s'appuyer l'Europe, Anastasia Colosimo?
Je serais bien incapable. Écoutez, de vous
c'est
le dire.
C'est la fin de l'année, c'est la fin de la semaine. Moi,
non, je serais c'est bien incapable de vous le dire. Je serais bien incapable de vous le dire, puisque de toute façon, quand même, tout ce projet est un projet très allemand, quoi. Vraiment très très allemand. Et les dernières années reposent quand même énormément sur Angela Merkel. En fait, le seul départ d'Angela Merkel, parlons même pas de ce qui se passe en France, est un sacré coup porté à l'Europe et à sa stabilité. À la volonté de faire respecter les exigences, etc. Quand Emmanuel Macron s'est dit on va reconstruire l'Europe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Angela Merkel. Il a dit on va le faire à deux, parce que de toute façon on peut pas le faire. Voilà, il y avait le Brexit, etc. Bon, c'était la décision rationnelle, on va le faire à deux. Mais vu comme il est affaibli et vu que Merkel l'a quand même pas tardé à partir, c'est très difficile de s'imaginer la réforme, en tout cas, qui a été voulue au départ, prendre cher. Vu les perspectives.
Alors on n'a pas. Oui, Gérard Courtois.
Moi, ce qui me paraît le plus compliqué dans la situation actuelle, c'est que, au fond, avec ces ambiguïtés qu'on a évoquées, le discours de Macron, il rééquilibrait effectivement cette espèce de cadre, j'allais dire de carcan, de cadre européen fixé, notamment sur le plan économique et budgétaire par l'Allemagne, mais il le rééquilibrait avec un discours sur le désir. Il n'y a plus aucun désir d'Europe dans les peuples, ou très peu. Or, et ça depuis longtemps maintenant, on l'a bien vu en France en 2005 au moment du référendum, et dès Maastricht en 92. Donc voilà, il y a une espèce d'Europe subie, notamment en France. L'ambition de Macron, c'était de remettre, si je puis dire, de la libido là-dedans. De mon point de vue, c'était salutaire par rapport à l'image européenne, à la fois le carcan budgétaire, la technocratie lointaine, toutes choses qui sont maintenant reprochées à Macron, d'ailleurs, dans son exercice du pouvoir. Technocratique, incapable d'écouter le entre guillemets, le peuple, etc. Toutes choses qu'on reproche depuis longtemps à l'institution européenne. Bon, voilà, il y avait quand même quelque chose de... Et c'est ça qui, à mon sens, dans l'affaiblissement politique intérieur et européen de Macron, est dommageable. On a effectivement une Angela Merkel qui est sur le départ et qui, en plus, maintenant, est dans une situation politique, pour le temps qui lui reste, quand même très, très, très contrainte par son allié CSU, par la présence d'une centaine de députés d'extrême droite ou d'ultra-droite ou de droite extrême, appelons-la comme on veut, au Bundestag. Donc voilà, c'est pas de ce côté-là qu'on peut attendre de redonner du souffle, de l'envie et une perspective européenne.
Alors remettre de la libido, remettre du désir dans le projet européen, ces élections européennes, on verra ce qu'en disent d'ailleurs sur ces sujets-là, sur les institutions européennes, sur le bilan de l'Europe, ce qu'en disent les gilets jaunes, si liste de gilets jaunes il y a, on n'en sait pas, il y a pour l'instant des embryons de liste ici et là, une coordination nationale des gilets jaunes, un mouvement des gilets jaunes et citoyens, mais après tout les élections européennes ont toujours été favorables, Stéphane Robert, aux listes surprises et avec parfois des scores inattendus. Est-ce que vous y croyez à cette liste gilets jaunes?
Alors, le fait qu'il puisse constituer une liste, ça paraît compliqué, puisque de toute façon, au départ, ce qui s'exprime énormément et ce qu'on voit, c'est une défiance vis-à-vis du politique. Donc, s'ils se mettent à constituer des listes,
mais
c'est presque nier un petit peu leur
cas.
Implication. Oui. Mmh. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? On
et
voit.
Qui représente-t-il?
Mais voilà, qui représente-t-il? On a vu quand il s'est agi de nommer des porte-parole des Gilets jaunes, ils ont tous été désavoués quasiment instantanément. Donc, constituer une liste, c'est encore plus compliqué, on imagine bien. Alors, bon, ceci dit, pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui vont y arriver. Et pour le coup, alors, ça pourrait prendre, on le voit selon les enquêtes qui sont réalisées, un petit peu à l'extrême droite, un petit peu du côté de l'extrême gauche, et puis finalement redonner un peu d'air au centre et au Parti En Marche. Bon, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que la campagne européenne, elle est pas démarrée du tout. Elle va démarrer très tard, hein, même pas en janvier. Là, ce sera plutôt février-mars. Hein, ce sera
Repoussé aussi parce que ce grand débat national, notamment avec les maires ruraux, cette grande consultation nationale doit reporter la campagne. Ben
on verra ce que ça donne, parce que maintenant le grand débat national avec les Gilets jaunes, comment est-ce que les Français vont s'associer à ça? Est-ce que ça va véritablement régler les choses? L'intention, on voit bien ce que c'est de renouer du lien. Maintenant, la fracture, elle est forte et profonde, c'est ce qu'on a vu, ça se rétablit pas comme ça. Alors, Il y a une crainte chez nombreux responsables politiques en France, c'est que ça ressurgisse. Quand, dans les semaines qui viennent, là, au printemps, on ne sait pas trop, on verra bien. À cette heure, il est peu probable que ça règle véritablement quelque chose, ce débat-là.
Est-ce que vous avez l'impression, Anastasia Colosimo, que pour l'instant, l'intérêt, les préoccupations des électeurs français, des citoyens français, c'est d'abord de s'exprimer dans le cadre d'une grande consultation nationale, donner du grain à moudre aux politiques qui disent vouloir les écouter aujourd'hui et les entendre, même peut-être, ou ces élections européennes encore lointaines, en mai, et surtout dont on ne sait rien, et les spéculations sur la liste de Gilets jaunes, on en lit partout dans la presse, mais en réalité, comme dit Stéphane Robert, pour l'instant, il est impossible de savoir ce qui va se passer.
Non, mais déjà, je pense que si les Gilets jaunes sont sortis dans la rue, c'est parce qu'exactement, ils ne croient plus au pouvoir des urnes. Donc déjà, il y a quand même une forme de contradiction, même dans l'idée qu'il y ait une liste de Gilets jaunes, puisque ce qu'ils disent exactement, c'est que c'est pas seulement qu'ils sont mal représentés, mais c'est qu'il y a quelque chose de vicié dans la représentation telle qu'elle existe. Donc vous voyez, évidemment, il y a énormément d'avis différents, etc. Mais quand même, il y a l'idée qu'il y a un problème au cœur même de la représentation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, avec des problèmes qui sont parfois d'ailleurs très bien identifiés sur le non-cumul des mandats. Mais alors ça veut dire quoi? Ces représentants qui n'ont aucun rapport avec le local, et c'est quoi nous, notre rapport à nos députés, et s'il y en a moins, etc. Bon, avec des questions institutionnelles qui sont à mon avis très sérieuses. Donc il y a une remise en cause assez forte de la représentation. Il y a un désamour assez fort de la politique à l'ancienne, de ces élections. L'élection européenne, c'est toujours une élection extrêmement étrange, dont je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. Je le dis de manière d'autant plus assurée que moi, ça m'a pris des années pour comprendre ce qui se passait à peu près au niveau européen. Et encore, je pense pas du tout avoir compris, et je m'y trompe mille fois. Etc. Donc, on sait traditionnellement que c'est pas une élection pour le coup très sexy. On parlait des vidéos tout à l'heure. Il y a une élection qui va être plus intéressante. Ça va être les municipales. Où là, ça va être plus intéressant parce qu'en plus, il y a un fort enjeu justement du local, qui est une préoccupation très forte de cette France fracturée.
Gérard Courtois, on entend déjà des formations politiques essayer d'attirer dans leur rang des Gilets jaunes, et celui qui y est allé avec le moins de scrupules, c'est Florian Philippot, le président des Patriotes, qui a déposé la marque, entre guillemets, l'appellation Gilets jaunes auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Ça laisse augurer d'une bonne campagne de politique politicienne, de petites phrases de calcul. On en est là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on aura appris d'ici les européennes pour mener une peut-être se remettre à faire de la vraie politique au sens noble.
Je ne sais pas ce que c'est la vraie politique au sens noble. En revanche, il y a deux ou trois choses qu'on...
En tout cas, c'est peut-être ne pas déposer un mouvement qu'on n'a pas initié,
Florian Philippot, grâce à cette initiative audacieuse, il va peut-être passer de 0,8 à 0,9% d'intention de vote.
Oui, il n'a pas grand-chose à perdre.
Il n'a pas grand-chose à perdre. Non, il y a deux ou trois choses qu'on sait quand même dès à présent. Un, c'est le premier scrutin national depuis l'élection législative de 2017. Donc c'est un test... Moi, je pense que c'est un test majeur, surtout après ce mouvement des Gilets jaunes, pour Emmanuel Macron. Deux, c'est un test qui va se passer dans le cadre d'une circonscription nationale, contrairement à ce qui se produisait depuis la réforme de 2004, qui justement avait fractionné en 8 grandes régions le scrutin européen pour essayer de casser, après la qualification de Jean-Marie Le Pen en 2002, au second tour, pour essayer de casser le vote Front National. Donc là, Macron, dans l'élan de sa victoire, a voulu reconstituer pour nationaliser ce scrutin et en faire un scrutin test pour lui 2 ans après son élection. Autre chose que l'on sait et que l'on voit, c'est la stratégie suicidaire des gauches. Bon, voilà, on est maintenant sur 4-5 listes probables, dont probablement une seule, celle de la France Insoumise, sera capable de dépasser la barre des 5%. Ou peut-être, absence de tête de liste chez les socialistes, embarras évident et absence à ce stade de tête de liste chez les républicains, ce qui est quand même avec des sondages accablants pour Laurent Wauquiez. Donc je pense que ce scrutin va prolonger l'effet de dislocation du système des partis auquel on a assisté en 2017, et qu'il sera pour Emmanuel Macron un test redoutable pour la suite de son mandat.
Stéphane Robert, est-ce que cette année 2018 aura la vertu de redonner de l'importance aux questions sociales? Oui, mais l'année qui vient de s'écouler et le mouvement des Gilets jaunes, redonner de l'importance aux questions sociales, de justice sociale, de répartition dans la campagne française pour les européennes?
La campagne française, ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que ce qui s'est exprimé à travers les Gilets jaunes, c'est un décrochage d'une partie de la population vis-à-vis du politique. Le politique... Et nous aussi, journalistes, on est mis dans le même camp, on est perçus comme des gens qui profitons du système et eux comme des gens qui ne profitent pas du système. Alors c'est pour ça que il y a aucune formation politique qui récupère finalement, qui est en train de récupérer ce qui s'est passé. Et le risque de ça, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas de désir, mais il y a de la crainte de quitter l'Europe. Il y a une crainte, il n'y a pas de désir, il y a de la crainte. Mais ce que ça peut donner tout ça, c'est accouplé à cette défiance vis-à-vis du politique, c'est une très forte abstention et un émiettement total sur différentes formations et aucune majorité qui se dégage véritablement. Donc une forme de désintégration du paysage politique.
Anastasia Colosimo, en parlant de l'Europe, Emmanuel Macron dit souvent qu'il veut donner aux Français et aux Européens une vision d'avenir, mais est-ce d'une vision d'avenir que les électeurs français ont besoin aujourd'hui?
Oui, je pense évidemment qu'ils ont besoin d'une vision
du présent déjà.
Présent, mais bon, c'est à l'aune de l'avenir qu'on comprend mieux le présent et ce qui nous arrive au quotidien. Même s'il y avait une revendication très forte qui est celle des Gilets jaunes, qui était justement le quotidien. Donc vous faites bien de le souligner. Ce qui compte pour eux, c'est aujourd'hui. C'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut une vision, c'est absolument évident. Il faut la donner. L'horizon paraît quand même assez sombre.
C'est votre dernier mot.
Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, les solutions qu'on a envie d'apporter et les solutions auxquelles on pense sont tout de suite des solutions très radicales. Et parce qu'on a quand même une grande culture politique, on est toujours inquiet des solutions radicales et en même temps, on ne peut pas imaginer pouvoir régler une telle crise si on n'apporte pas un peu quand même de radicalité.
Merci beaucoup Anastasia Colosimo d'être venue avec nous pour votre dernière participation, je crois, au Club du Grain à Moudre. Hervé Gardé vous a donné. Vous avez dit au revoir la semaine dernière. Donc bonne route à vous dans vos nouvelles aventures.
Beaucoup.
Et merci d'avoir été avec nous, ainsi qu'à vous Gérard Courtois, directeur éditorial au journal Le Monde, et à vous Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Merci à toute l'équipe du Grain à Moudre, Antoine Tricot, Antoine Dulster, Isotte Sicard, Virginie Leduo, Guillaume Laguigné, émission réalisée par Émilie Valla, avec à la prise de son ce soir Jean-Guilain Meige. Lundi prochain, notre cher Hervé Gardette sera de retour. Quant à moi, je vous retrouve dimanche à 18h15 pour Dimanche et Après. Nous parlerons des bonnes nouvelles pour 2019 sur le front de la médecine. Dans un instant sur France Culture, la dispute.